Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue à Regards Croisés, aujourd'hui jeudi, et nous sommes ensemble avec
Fulgence.
Aujourd'hui
Zeblin.
J'avais envie que tu dises ton nom avant, t'as vu, je t'ai eu, il me regardait, et Arlette Farah, ouais. Bien sûr. Alors aujourd'hui c'est une invitée, on va commencer avec de la musique et avec la musique de Bach. On va parler du festival Bach à Montréal et on va recevoir Alexandra Schaebler qui est directrice artistique du festival qui commence aujourd'hui. Et toi, Tu vas nous parler de...
Ouais, je vais parler un peu de Amazon qui me surprend encore. Ils vendent des livres, de l'épicerie. Maintenant, c'est la pharmacie qu'Amazon vise. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, je vais parler de peinture. Beaucoup de tableaux qui sont exposés dans différents lieux de la ville de Montréal.
Ouais, Et qu'on peut aller voir.
Voilà, qu'on peut aller voir.
Alors, On va démarrer en musique avec Cris et Bernache qui nous chantent « From Me ». Alexandra Schaebler, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et puis merci d'être là avec nous. On va parler du festival Bach qui va se passer à Montréal, qui commence aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, ce soir.
Ce soir.
Oui.
Pas trop angoissée? Tout va bien?
Oui, tout va bien. Oui, ce soir, c'est le concert d'ouverture.
Oui.
Et pour les prochaines 2 semaines, on va avoir beaucoup de différents concerts.
On va en parler dans un instant. Je voudrais qu'on revienne à propos de l'orchestre Festival Bach de Montréal, parce que le festival a été créé il y a 15 ans, c'est ça, en 2005?
Oui, on avait le premier festival en 2005. Oui.
D'accord, donc ça fait 15 ans et j'ai lu que depuis 2018, il y a un orchestre, c'est-à-dire que le Festival Bach de Montréal a son propre orchestre.
Oui, parce que l'idée de cet orchestre est d'être capable de travailler avec les musiciens, les très bons musiciens d'ici, parce qu'au Québec, il y a au Canada et Québec, beaucoup de musiciens qui sont très, très bons. Mais d'avoir la chance d'inviter des spécialistes de Bach, des chefs d'orchestre qui sont spécialisés dans cette musique, pour travailler avec les musiciens ici, pour l'orchestre, et quelquefois aussi des solistes ou des chanteurs. Cette année, c'est un peu différent parce que on ne peut pas inviter des artistes étrangers parce que à cause de la pandémie, ce n'est pas possible. Mais nous sommes très, très heureux d'avoir un très, très bon chef qui travaille aussi beaucoup en Europe. C'est Jean-Claude Picard.
Oui.
Et, et des solistes qui sont vraiment très bons. C'est Anna Zofimea, soprano, et le baritone Russell Brown.
Je lisais aussi que l'édition 2019 avait attiré plus de 20 000 personnes qui étaient venues à Montréal. C'est quand même c'est un beau succès, je trouve.
Oui, le festival, depuis quelques années, c'est plus connu et beaucoup de monde vient du Québec, de l'extérieur des États-Unis. Nous sommes très heureuses. C'est seulement cette année, c'est sûr que c'est un peu différent.
Alors, qu'est-ce qui commence ce soir? Qu'est-ce qu'il y a et où?
Ce soir, ça va être un gala d'orgue avec 4 différents organistes.
Oui.
Et c'est à l'Oratoire Saint-Joseph. Oui, à Montréal.
Alors,
mais c'est en ligne. C'est
voilà, on peut le voir. Eux, ils sont enregistrés à l'Oratoire. C'est ça?
Tous les concerts sont diffusés en direct. Et ce concert, ça, c'est à l'Oratoire Saint-Joseph.
D'accord.
On peut se brancher sur Québec.
On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'instant, pour rester là-dessus, donc eux sont à l'Oratoire Saint-Joseph et ça se fait en direct au moment même où ça a déjà été enregistré. Non, ça se fait en direct.
Ok, c'est en direct.
D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on a dans les prévisions de la semaine?
Ah oui, le dimanche.
Oui, les autres récitals.
Clavecin concert avec Luc Beauséjour. Et ce sont des sonates en trio avec 3 musiciens. Et c'est un peu différent que normalement. C'est un arrangement pour clavecin, marimba et violoncelle. Et des sonates de Bach.
M'excuse de vous couper, je souris tout le temps, j'aime bien parce que vous dites le nom comme il faut, vous dites Bach. Moi je dis Bach, mais parce que j'ai toujours appris comme ça en France.
Oui, en France on dit Bach.
C'est ça.
Oui.
Donc.
Et lundi, ça va être un concert avec l'orchestre de l'Agora et le jeune chef Nicolas Ellis. Et un artiste, Marina Thibault, qui va venir de Vancouver. Et c'est un programme baroque avec Telemann et Bach et d'autres compositeurs. Oui, pour un petit orchestre de chambre. Et ça, c'est en direct de la salle Bourgie.
Ah, magnifique, parce qu'il y a une acoustique fantastique.
On voudrait bien garder l'idée du festival parce qu'on ne savait pas si le public a le droit d'aller au concert ou pas.
Pour l'instant, non.
On a espéré.
Oui,
et peut-être lundi, on va savoir si ça va être possible dans les prochaines semaines. Alors, on a gardé les concerts au lieu le même lieu de concert.
Ah, c'est-à-dire que si jamais on apprend une bonne nouvelle qui libère oui. du temps et des places, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut aller sur place les voir en direct, il y aura à oui. la fois la transmission télévisuelle, quoi, on va dire, et puis en même temps, on pourra être sur place, c'est ça?
Oui, si les directives changent.
Si, ben on espère qu'on va redevenir orange, comme ça, ça permettra oui. de, ça permettra de sortir. Puis ça fait du bien aussi pour les musiciens, parce que se faire enregistrer, avoir le plaisir de jouer, d'abord, bon, ben, le plaisir est là, tout est là, donc tout est réuni, c'est parfait. Maintenant, avoir du monde dans la salle, c'est bien aussi. Le bon oui. côté de l'enregistrement, c'est aussi qu'il pourra être vu par beaucoup plus de personnes.
C'est vrai.
Aussi, oui. aussi. Donc,
aussi on a des gens qui nous avons contactés d'Europe et des États-Unis qui sont très heureuses d'être capables oui, de suivre de le faire. Festival
on,
cette année.
On va le dire dans un instant. Là, on va peut-être écouter un morceau. Je vais le dire comme vous, de Jean-Sébastien Bach. Hein, je l'ai bien fait là j'étais bonne
très
là-dessus
bien, très bien.
Voilà oui. Donc on va écouter un morceau très connu et puis pour nous remettre dans l'idée, puis on parlera après de tout ce qu'il va y avoir. Il va y avoir violoncelliste, violoniste, etc. Donc il y a plein de grosses mm-hmm. personnalités à aller voir ou à regarder si jamais on ne peut pas aller dans les salles. Mais comme vous avez gardé sous le coude quelques salles, on risque d'avoir ce plaisir-là, peut-être. Donc, on part en musique.
Oui.
On l'écoute, on vous retrouve tout de suite après. Alors, on va aussi... donc, quand vous me disiez tout à l'heure que vous gardiez des salles au cas où on puisse ressortir, je lisais qu'il y a le premier grand concert de l'Orchestre métropolitain de Montréal à la Maison Symphonique, le 5 et 6 décembre, c'est ça?
Donc, oui.
Est-ce que la salle reste ouverte ou pas?
Si on a le droit d'aller au concert.
Vous oui. pourrez avoir la Maison Symphonique pour ces deux dates. Je veux dire, ça reste pour vous, quoi, au cas où ça puisse se rouvrir,
oui.
c'est ça?
C'est pour l'orchestre métropolitain, oui. Parce que sinon, on va avoir le concert en direct le 6 décembre.
D'accord. Donc, ça sera sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, bien sûr.
Oui.
Ce qui est aussi un beau cadeau. Alors, si on parlait de la nouvelle plateforme streaming Québec Baroque, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a été créé?
Oui, Québec Baroque, ça c'est le plateforme est créée par l'organisation qui est devant le Festival Bar, c'est le Bar Academy de Montréal. Et c'est indépendant du festival, mais on a lancé Québec Baroque avec le Festival Bar, mais Québec Baroque va être disponible pendant toute l'année. Et c'est quelque chose pour des... Ça doit être un peu international aussi, mais c'est aussi pour des artistes et organisations d'ici qui veulent faire plus de streaming parce que, oui, ça c'est une plateforme spécialisée de la musique classique.
Ça veut dire que quoi que ce soit qui se passe, c'est-à-dire si on peut ressortir en salle pour profiter de la musique classique d'une autre manière, ça oui. va continuer à exister tout au long de l'année.
Oui. Et on pourra... C'est une idée... On avait déjà depuis longtemps, mais normalement, c'est vraiment difficile de créer ça. Mais cette année, pendant l'été, parce qu'on savait que ça ne va pas changer si vite avec le COVID, alors c'était quelque chose, on a dit, OK, maintenant, c'est le temps de vraiment travailler là-dessus. Et oui. on va faire aussi un concert qui est diffusé live le 29 de Turin. En Italie, avec un pianiste italien.
Oui, j'ai vu ça.
Ça, c'est l'idée aussi de Québec Baroque, d'avoir des concerts qui sont produits en Europe, peut-être, et diffusés ici, pour le public ici.
Oui, ça serait une bonne idée, en tout cas. Je trouve que c'est une... C'est, ben oui, parce que ça reste au long de l'année, ça va permettre... Ben, ça va nous permettre aussi de rencontrer des artistes qui ne viendraient peut-être pas au Québec ou qui n'auraient pas eu l'opportunité mm-hmm. de venir au Québec et puis qui vont partager cette musique-là.
Oui.
C'est ça?
Ça, c'est l'idée, oui.
C'est
oui.
l'idée. Donc, on continue un petit peu sur la liste de tout ce qu'on va voir puisqu'il y en a quand même pour 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Je vois que vous avez à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours aussi, du clavecin en concert.
Oui, ça c'était le concert que j'ai mentionné avant. Et après, on va aller à la Salle Bourgie avec l'orchestre de l'Agora. Et après, un pianiste d'Arménie, c'est Anna Saradian, avec un très bel programme Bach au piano. D'accord. Ça va être le mardi. Et le mercredi, si on aime le violon solo, c'est une chance d'entendre Kirsten Leung avec des partitas et sonates de Bach et de Isaïe. Oui, et un peu de chœur, c'est le 26 avec le studio de musique ancienne de Bach, de Montréal, pardon, oui. avec des motets de Bach. Aussi à la
je vois que l'orchestre de l'Agora va être sous la direction du chef Nicolas Ellis,
oui.
Que oui. j'avais reçu ici aussi l'année dernière, je pense. Oui.
oui.
Donc,
oui.
C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant.
Oui, c'est quelqu'un à suivre.
Voilà.
Oui.
Quel est votre, en tant que directrice artistique, quel est votre rôle là-dedans? Quelle décision vous prenez? Vous faites partie des choix? C'est vous qui choisissez? Ou vous faites partie de
oui.
ceux qui choisissent en tout cas?
Oui, je suis la directrice artistique. Ça veut dire que c'est moi plus ou moins qui fais la programmation.
Oui.
Mais l'équipe du festival n'est pas très grande. Alors, nous sommes une très, très belle équipe. Avec plus ou moins 4 personnes et on fait tout le festival tout ensemble. Alors.
D'accord. Est-ce que vous avez eu des retours quand vous avez dit cette année, en vue de la pandémie, de tout ce qui se passe, on ne va pas pouvoir le faire comme d'habitude, donc ça va être en streaming, on va le filmer, etc. Est-ce que vous avez eu des retours des habitués, de ceux qui aiment. De ceux qui vous suivent, de vos réguliers, on va dire, ceux qui vous suivent au fil des années?
Oui, je pense que oui. C'est sûr que notre public n'est pas habitué de suivre des concerts à la maison.
Oui.
C'est quelque chose
c'est pas pareil, hein.
pour beaucoup de monde. Mm. Oui, mais on avait beaucoup de des commentaires très, très positifs et des courriels et... pour des gens qui nous avons dit « Ah, c'est vraiment bien que le Festival Bach, on va avoir un festival cette année. »
Bon, déjà qu'il y ait le festival, ouais. oui, c'est déjà une très bonne chose. Quelles ont été aussi les réactions sur Québec Baroque, sur cette plateforme
oui,
en sachant
chose,
que ça va durer toute l'année, en sachant que ça va durer toute l'année, en sachant que le public, votre public de un moment dans l'année va pouvoir suivre tout au long, oui. pendant tous les 12 mois, pouvoir suivre éventuellement des spectacles qui viennent d'autres pays et de partout. Quelles ont été les réactions aussi là-dessus?
Très, très bon.
Très, très bon.
Vraiment... Oui, parce que c'était difficile de travailler sur une programmation qui va être en salle ou et bien en ligne. Et parce que c'est beaucoup de travail et c'est un travail qui est un peu différent avec créer une plateforme et avec tout le oui. streaming et tout ça. Mais c'était vraiment bien que...
Ça valait la peine.
C'était très, très positif de notre travail là-dessus.
Ben, en tout cas, on arrive au bout de l'entrevue. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Et puis, merci à vous.
Et puis, ben, excellente soirée parce que là, vous êtes parti pour un rush de... Deux semaines.
Oui.
Alors, bon courage pour tout, bonne continuation, puis plein de bons téléspectateurs. On dit téléspectateurs, oui.
Oui.
Voilà. Donc, bonne continuation à vous, et puis à l'année prochaine, je l'espère, dans une salle, ou peut-être, qui sait, d'ici décembre, on aura l'occasion d'aller écouter ces musiques-là dans une salle. On ne sait jamais, hein. On croise les doigts.
On ne sait jamais, oui.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Voilà, ça vous a donné un petit avant-goût de ce que vous pourrez écouter à partir de ce soir et dans les deux semaines qui arrivent. Voilà, en espérant que certains pourront être en salle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on croise les doigts. Sur ce, je ne pourrai pas être avec vous pendant la deuxième demi-heure, donc je vous laisse avec Fulgence qui aura des sujets intéressant, voire même peut-être énervant, mais je ne vais pas pouvoir être là pour lui répondre.
C'est vrai, c'est dommage que tu ne sois pas là pour commenter un peu. Ouais, je savais que tu allais avoir ton coup de gueule, parce que là...
Et ça ne m'empêchera pas d'en parler demain.
Donc, demain tu peux revenir sur ça, cette histoire de pharmacie avec l'Amazon,
tout ça.
Pharmacie virtuelle.
On s'en rediscutera dans un petit moment, enfin demain en tout cas.
Oui.
Merci beaucoup pour ceux qui étaient là, puis je vous dis à demain. Puis à toi aussi, Fulgence. Et puis après, il n'y a pas qu'Amazon, tu as aussi d'autres sujets.
J'ai d'autres trucs. Il y a plein de... Il y a des peintres qui exposent partout.
C'est intéressant.
Non, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé aux pharmaciens. Là, il va falloir se réinventer eux aussi, ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Oui, les pharmaciens, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui m'intéresse, c'est les artistes. Parce qu'eux ont besoin...
Tu vas pas chasser les pharmaciens. Alors, on va parler de ça parce qu'il y a pas mal d'expos qui se passent actuellement dans les différents lieux. Tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. Hein. Oui. C'est plein feu sur la peinture à Montréal.
Mais ça, c'est bien.
Ouais.
Même si on peut rentrer à dose homéopathique. Mais au moins, allez les voir parce que c'est important pour les artistes qu'on soit là, qu'on puisse les regarder, les écouter, leur parler, enfin échanger avec
eux. C'est l'événement Pictura.
Donc, c'est une bonne chose que ça se passe dans...
Toute une pléiade de peintres, toute une liste, et puis toute une liste aussi d'événements, de lieux, d'endroits où ces tableaux sont exposés d'ailleurs. Tout le mois, ça a commencé depuis le 1er novembre, c'est tout le mois de décembre aussi.
Alors... Jusqu'à Noël.
Ouais,
pour ceux qui ont
jusqu'au jour de l'an.
pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez aussi vous en faire des cadeaux.
Simplement aussi pour le plaisir des yeux.
Pour le plaisir des yeux, bien sûr.
Voilà.
Et puis pour pouvoir parler avec l'artiste, parce que souvent dans les expos, les artistes sont présents, donc on peut aussi les rencontrer, savoir le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce tableau, quelle est l'imagination, l'imaginaire, les circonstances qui l'ont amené à il ou elle peindre
ce tableau.
La manière dont ils l'ont fait.
Au musée, je ne sors pas avec un tableau, parce que de toute façon, je ne peux pas me permettre, là, c'est clair. Donc,
mais au musée, ils ne sont pas à vendre.
C'est pas... Non, il y a des...
J'ai une grande inquiétude de vous laisser seul avec lui, mais bon...
Non, ouais, tu peux voir ça et puis passer la commande chez l'artiste après, quoi.
Merci à tous, je vous dis à demain.
Restez à l'écoute. On veut revenir après la petite pause publicitaire.
À tout de suite. Ouais.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Oui, on va démarrer la deuxième partie de l'émission tout de suite en musique avec Baby Sally et Young Boss, Somebody Baby.
Napanya, napanya, somebody baby. Napanya, napanya, somebody baby. Napanya, napanya. Dim sa tam da hoge, di ma me take kake iso seme Mi a busi a hati sa da ume nda kapade No men sa ufan, dim yo take ode ta men bunu Dwen a hoge im take so we bunu pisin ta suku No em fa hoge se kadam silita Kan em fa longu koti dam silipa No kupi mi si tam kosi la tita yunke De di am banjam ta fita wali bide Ma no kristal de o takim kono ta kide Motel de a takim so no ta fide No pikide bede te ino so langa de sa menye De ita hai wan te so im takaba pikide Na upo ya
So food in one at house, my ew one I go back house. We go somewhere and somewhere quasu. If I you, I'm a way at an afu. Me one ya panty for sport and a jeans and a you. No, someone like a pull and I make fun of you. Problem, tapa carta, take
Complicité des Young Boss, Somebody Baby. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, on va parler, je reviens comme je le disais, j'en parlais avec ma collègue Arlette, Amazon qui se lance dans la route technologie, consommation, voilà, ça c'est des choses, on sait qu'Amazon fait de la livraison de livres, de streaming de musique, épicerie aussi, maintenant c'est la pharmacie qui est ciblée. Voilà, c'est ce qu'ils vont appeler maintenant Amazon Pharmacy. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon ben, comment vont faire les pharmaciens maintenant? C'est un grand concurrent Amazon. Alors il va falloir que les pharmaciens, sur le terrain, dans nos quartiers, se réinventent. En Amérique du Nord, selon, comment dirais-je, le communiqué d'Amazon, et puis qu'a repris d'ailleurs l'AFP, l'agence France Presse, ça date d'hier, hein, c'est tout nouveau. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hier, c'était le 17, aujourd'hui, ouais, bon, avant-hier, le mardi, aujourd'hui, c'est jeudi déjà, ça va tellement vite. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'achats sur le web, en commençant par les livres, le streaming, l'épicerie. Maintenant, ils se sont dit, mais comment on peut faire plus d'argent? C'est ça, la consommation. Tout le temps. Ils vont chercher la... Voilà, donc la pharmacie, c'est un ajout important pour eux, nécessaire à la boutique en ligne Amazon. Aïe, c'est ce colosse-là, moi je l'appelle le monstre, ou bien la mastodonte Amazon. Ce géant qui est basé où d'ailleurs, là, Seattle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est là-bas, c'est à Seattle qu'ils sont basés. Concurrence directe avec les pharmacies de quartier, ouais, aux États-Unis. Je ne sais pas si tout de suite, dans le monde entier, les gens pourront passer des commandes directement, mais en Amérique du Nord, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est aux États-Unis surtout. Je ne sais pas si les Canadiens seront en mesure de passer leurs commandes directement dès aujourd'hui, là, comme nos voisins américains. Alors si c'est le cas, vraiment, c'est pas une bonne nouvelle pour les pharmaciens de quartier. Voilà, ce service de pharmacie, et ça comble le rare secteur d'ailleurs qu'offre le groupe qui n'était pas présent. Ils se sont dit, mais comment on peut se faire de l'argent? Ils avaient essayé d'ailleurs leur entrée remarquée dans la livraison de médicaments il y a 2 ans. Ils avaient racheté le distributeur PillPack pour 753 millions de dollars. C'était un site qui était spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques et qui les conditionne aussi aux ordonnances, aux malades chroniques. Après, il se dit, on va aller plus loin, voilà. Mais ils vont toujours voir plus large, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense aux pharmaciens de quartier, je reviens là-dessus, propose une nouvelle section pour son site dédié à la pharmacie. Oui, vous allez trouver ça tout de suite, mais à partir de maintenant, si vous allez sur le site d'Amazon, vous allez voir là-bas, Amazon Pharmacy, c'est-à-dire pharmacie Amazon. Voilà. Si c'est pas fait, ça va être dans les prochains jours là qu'on va voir ça là-bas. Tout de suite, oui, pharmacie Amazon, comme livre, comme je ne sais quoi, streaming, ou bien je ne sais quoi d'autre. Voilà. Et ce qui est encore gênant, c'est qu'ils pourront enregistrer les informations de l'assurance santé des ceux qui vont passer la commande de médicaments. C'est un profil sécurisé, bien sûr, comme on le dit toujours, c'est Amazon Pharmacy. Mais ça est mis aussi sur les fonds d'information, sur les prix pour conquérir le marché. Oui. Livraison en 2 jours et rabais. Ça, c'est le leitmotiv. Hein. C'est une manière de séduire la clientèle qui va s'intéresser à leur pharmacie virtuelle. Moi, j'appelle ça la pharmacie virtuelle. Bon. Alors, en lançant cette pharmacie numérique, là, ils offrent ce rabais à ses membres, payants, bien sûr. 2 jours de livraison et rabais en même temps, quoi. Là. Sur ordonnance, oui. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est la première fois que plusieurs acheteurs communs peuvent commander directement leur remède sur Amazon. Oui, on le sait. Mais moi, je pense aux petits pharmaciens de quartier, toujours. Je reviens là-dessus. Pour Greg Gartwood, qui est professeur à l'école de business de Northwestern University, dit « Ce lancement d'Amazon représente une menace significative pour les pharmaciens de quartier physique où on peut se rendre. On parle aux gens. Ce n'est pas en ligne qu'on passe des commandes de médicaments. » Il dit « C'est comme toi, les pharmacies doivent désormais offrir plus qu'un accès aux médicaments prescrits. » Voilà. Donc l'entrée de ce géant de Seattle, Amazon bien sûr, doit faire réagir nos pharmacies de quartier pour dire « Attention, il y a le colosse qui arrive, il faut qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour ne pas que nos clients, au lieu de venir ici à la pharmacie ou bien au lieu de nous appeler, passent toutes leurs commandes en ligne chez Amazon. » Qu'est-ce que tu en penses, Maurice? J'ai envie d'ajouter un mot.
C'est un ogre. Pas un monstre, c'est un ogre. Et comment, moi, je me pose la question, tu vas voir ton médecin, tu as une prescription dans tes mains.
Oui.
Comment tu fais pour donner la prescription?
La prescription, envoyer ça...
Ouais. Hein?
Mais aujourd'hui, ça se fait. Tu scannes et puis tu envoies ça à Amazon.
Ouais, c'est mais ça. Là, où la confidentialité est où?
C'est ça. Non, ils disent que c'est sécurisé, le site. Comme ils disent, Amazon sécurisé d'Amazon, c'est ce qu'ils disent. C'est là.
En tout cas, je reste sceptique. Mais c'est un ogre, donc il ne faut pas encourager c'est un ogre.
Moi, personnellement, c'est ce qui fait que j'en parle d'ailleurs. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non. Merci pour le mot que tu as choisi. Donc, ça va faire une manière de faire réagir nos pharmaciens de quartier pour dire, attention, il y a le gros qui arrive et puis il faut qu'on aille de l'avant avec ça. Ah bon, je pense bien que ça va être... Moi, personnellement, c'est pas là que je vais acheter mes médicaments. Mon pharmacien de quartier, il a quelques 2-3 minutes de marche à pied de chez moi. Voilà. Je pense que voilà, faites attention avant de prendre la décision. Oui, les livres, je peux comprendre. Oui, même l'épicerie sur Amazon. Voilà, ça c'est.
Même les livres, non.
Voilà, même.
Il faut encourager les libraires locaux.
Moi, je n'ai jamais acheté de livres sur Amazon non plus. Mais même, il y a des gens qui font l'épicerie sur Amazon. On va en musique. Merci, Maurice. Avec Beris, What We Have. Beris, What We Have. Oui, c'est le deuxième morceau de son nouvel album Encounter qu'on écoute ici sur les ondes de Canal M. Oui, elle fait le lancement de cet album aujourd'hui à 19h30. Sur le virtuellement, bien sûr. Voilà, virtuellement, Facebook Live, si je ne me trompe pas. Donc, j'appelle son nom, c'est B-E-Y-R-I-E-S. Beris. Vous allez taper ça là-bas, aller voir son lancement en direct. Ouais. Aujourd'hui à 19h30, à 19h30 de ce nouvel album en 40. Voilà. En tout cas, j'apprécie bien tout ce que j'ai écouté jusqu'à présent. On avait écouté la première pièce ici il y a deux jours de cela, en onde, c'était Closely. Et aujourd'hui, on écoute, bien écouter What We Have. Elle ne chante pas seulement en anglais, il y a des pièces aussi sur cet album, ou comme sur son ancien album, aussi en français. Voilà. On va parler un peu de peinture. Hein. Je vais parler un peu de peinture. Plein feu sur la peinture à Montréal. Novembre et décembre, tous les deux mois, depuis ça a commencé depuis le premier. C'est l'événement Pictura qui se consacre à la promotion et à la diffusion de la peinture contemporaine au sens large du terme, bien sûr, qui présente des œuvres dans plusieurs lieux culturels à Montréal. Et ce, tout au long des deux mois de novembre et de décembre. Donc, ça veut dire que ça a commencé depuis le 1er novembre, là, tout doucement. Dans les différents lieux, donc, Pictura est issu du titre latin d'un traité de peinture rédigé par Léon Battista Alberti en 1435. Ça évoque aussi un vers de l'Ars Poetica d'Horace, ut pictura poesis, comme la peinture, la poésie, c'est bien, c'est comme ça. Donc, présenté simultanément dans près de 30 lieux de diffusion, galeries, centres, autogéré, lieu indépendant, etc., etc. Donc les œuvres choisies d'ailleurs vont mettre en valeur la richesse, et la diversité de la peinture à Montréal, où elle possède une riche et forte histoire des différents lieux. Il y a tellement de coins, même dans des coins du rue auxquels vous attendez pas du tout, vous allez voir des tableaux de peintres bien connus qui seront là. Les lieux, quelques-uns, la Maison de la Culture de Mont-Royal, bien sûr, Maison de la Culture NDG, ou bien Galerie Belma Lambert, Galerie Bernard, ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous citer, et quand vous allez vous déplacer là, dans ces différents lieux, il y en a tellement, et les peintres exposants, toute une pléiade, Claire Labonté, Franz Gisch, Trevor Kiernande, Benjamin Klein, Tammy Campbell, Étienne Chatron, Guylaine Chevary-Lessard, Pardis Amérian, John, ils sont plein. Ne ratez pas. Et puis, bon, allez-y pour ceux qui aiment la peinture, ou bien ceux qui aimeraient découvrir au moins quelques œuvres de quelques artistes peintres de la grande métropole, ou bien du Canada, ou bien de Montréal, ou bien des autres régions du Québec, qui vont aussi exposer. Il ne faut pas être forcément originaire de, ou bien habitant de Montréal pour faire ça, voilà. C'est l'événement Pictura, P-I-C-T-U-R-A, plein feu sur la peinture à Montréal. Vous allez avoir toutes les informations là-bas. Bon, je parlais la dernière fois de, d'un événement au cours de, qui va se produire dans le cadre du premier festival international de danse de Montréal quand on avait reçu le cofondateur. Ça, c'est depuis le 12 novembre, ça a commencé. ADN, c'est l'Amérique Danse Noire. Une projection qui se fait sur la façade aux abords du métro Saint-Laurent. Quand vous sortez du métro, il y a une belle façade qui est là. C'est tous les soirs, depuis le 12 novembre que ça a commencé, depuis une semaine déjà, ou juste du 9, depuis 7 jours, jusqu'au 22 novembre. Ça finit là bientôt. Hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir ça, c'est de 17h à 22h. Et ne dites pas, ouais, il va y avoir plein de monde. Non, les gens ne s'entassent pas là-bas. Hein. Les gens ne s'entassent pas. Je vous le dis, c'est gratuit en plus. Vous sortez du métro, ou bien si vous êtes en voiture, que vous parquez quelque part, c'est juste sur la façade, à l'entrée du métro Saint-Laurent, sur la ligne verte. Donc, c'est le Festival international de danse de Montréal qui souligne l'importance de la danse noire dans l'histoire de la danse américaine, comme nous avait fait savoir la dernière fois Steve Bolton ici, une entrevue projetée sur le bâtiment à la sortie du métro Saint-Laurent. L'ADN, c'est-à-dire Amérique Danse Noire, spectacle vidéographique en 5 tableaux, un mélange d'archives, d'effets visuels et de chorégraphies conçues par 3 danseurs chorégraphes de la communauté noire qui transportent le spectateur dans un acte poétique. Voilà, c'est tous les soirs, depuis le 12 jusqu'au 22. 22, c'est dingue. C'est le dimanche, si je ne me trompe pas. Voilà, ça finit dimanche. Alors, pour ceux qui aiment la danse, ou bien qui aimeraient voir ça, même si vous n'aimez pas la danse, oh, ça ne me tente pas si vous sortez du métro Saint-Laurent, jetez un petit coup d'œil sur la muraille qui est juste là, à votre gauche. Voilà. Conception, direction artistique, Steve Bolton. Directeur de création, Yves Aucoin. Oui, ça c'est producteur Infinity. Intéressant. Équipe de production, Mathieu Coutu, Maxime Poisson et Guy Levesque. Les chorégraphes, c'est Steve Bolton, bien sûr. Travis Knight, Didier Jean-François. Et puis les danseurs, bon, Travis fait partie, Studio 8888 Swing. Didier Jean-François, Liliane Malcolm, Valérie Panfield dans Swing et Lily Hop et puis Rock'n'Roll, Charleston. Anne-Rose Cupidon, Freestyle Jazz, Sonny Boisvert, Hip Hop. Et puis qui encore? Ouais. Mélise Brazo, Robert, Hip Hop, Nathalie Billy, Jolene, Hip Hop. On dit merci beaucoup au soutien apporté par le partenariat du quartier des spectacles et le gouvernement du Québec à cet événement. Allez-y, vous rincez les yeux là. Et ceux qui aiment danser, vous pouvez bouger en même temps que les chorégraphes. Vous allez voir sur la façade de ce mur là, aux abords du métro Saint-Laurent. Voilà, on va terminer en beauté en pièce musicale, en musique, avec Brian Calberston, On My Mind. Thank you. Brian Talbertson, On My Man. Ouais, ça c'est de la musique là, on sent le professionnalisme, on sent les doigtés, on sent... Ouais, pour ceux qui aiment ce genre, ce style de musique là, allez-y, le chercher là-bas. Vous allez le trouver sur toutes les plateformes numériques. Brian Culberson, C-U-L-B-E-R-T-S-O-N. C'est son nom de famille, Brian, B-R-I-A-N, c'est bien ça, c'est pas compliqué. Alors, comme je disais avant cette belle pièce musicale, n'hésitez pas d'aller juste à la façade aux abords du métro Saint-Laurent. Ça finit dimanche, hein. Ne dites pas j'ai le temps, ouais, c'est... aujourd'hui c'est jeudi, demain c'est vendredi. Après, c'est samedi et dimanche, c'est le 22, c'est de 17h à 22h. Et puis, de toutes les façons, demain, par exemple, si je me fie à ce que l'environnement Canada nous a fait comprendre, bien météo, médias et autres, là, demain, on aura au moins, peut-être, au-delà de, au-dessus de 13 degrés de température, 13 à 14 degrés, si je ne me trompe pas. Il fera beau. Voilà. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Maurice, l'émission. Merci de votre fidélité. Restez en santé. Prenez soin de vous. Et puis bon, ben, on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Bonne soirée et à demain.